Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « C'est quoi ce film bizarre ?» Thibaut, que l'on retrouvera en fin d'émission pour ce complément d'enquête. Le son, ce sera la marche de l'algorithme quant à notre invité du jour, Bernard Trieder, pour parler politique de l'algorithme. Dans un texte important et que nous avons maintes fois cité ici, le juriste américain Lawrence Lessig avançait en 2001 la proposition suivante « Code is law ». Le code fait loi, le code fait la loi. L'idée de Lessig était limpide et rétrospectivement lumineuse. Ce qui règle nos libertés et la liberté dont jouissent nos actions dans le monde numérique étant le programme informatique, c'est lui qui fait loi. Le code est donc un enjeu démocratique. Dès 2001, Lawrence Lessig nous invitait par conséquent à mettre de la politique dans le logiciel ou plutôt à voir la politique qu'il y avait dans le logiciel. 13 ans après, la proposition tient plus que toujours, elle tient d'autant plus que les algorithmes ont accru leur place dans nos vies. Ce sont eux qui classent les informations qui nous arrivent, qui nous font des recommandations d'objets à acheter, de pays à visiter. Ce sont eux qui nous mettent en contact avec d'autres personnes, mais les algorithmes peuvent aussi décider de transactions financières, identifier des contenus, des comportements, des individus. Ils peuvent décrire, ils peuvent repérer, ils peuvent alerter, parfois même peut-être agir. Et qu'y a-t-il donc d'autre que les mathématiques dans les algorithmes? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui et que nous allons poser à notre invité Bernard Trieder. Bonsoir Bernard Trieder.
Bonsoir.
Vous êtes professeur associé en Media Studies à l'Université d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Vous êtes autrichien de nationalité. Je le dis juste parce que ça explique votre tout à fait léger accent germanique.
Hein. Merci.
Et si vous parlez parfaitement le français, c'est que vous avez été maître de conférence dans le célèbre département hypermédia de l'université Paris 8 Saint-Denis. Et c'est là que d'ailleurs on s'était rencontrés au tout début de la reprise de Place de la Toile. Et vous étiez venu nous parler, c'est pareil, assez longtemps maintenant, avant de partir à Amsterdam, du code, de la beauté du code, me souviens-je. Alors, on va donc discuter, parce que c'est un de vos objets de travail, des algorithmes, et de ce qu'il y a d'autre donc, que les mathématiques dans l'algorithme, c'est-à-dire beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il est nécessaire de partir du début et d'essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, Bernard Trieder.
Oui, voilà, bon, c'est l'une des grandes questions. Hein, et, bon, quand on regarde un peu dans la littérature, on va trouver des définitions très différentes, on va trouver des définitions vraiment très formelles, très mathématiques. Mais si on prend un peu de recul, il s'agit de quelque chose de plutôt simple qu'on est aussi, qu'on connaît de la vie courante. C'est-à-dire, c'est une suite de pas qui nous permet de faire quelque chose. Donc, si on prend un exemple, on peut même prendre une recette de cuisine, c'est-à-dire dans une recette de cuisine, il y a des ingrédients, il y a des traitements, hein, donc on peut bouillir, on peut
mettre
dans le four, voilà. Et après, à la fin, il y a aussi quelque chose qui sort, voilà. Donc il y a un repas. Et je pense que ce qui est important dans cette métaphore, qui introduit bien la chose, même si elle tient pas forcément jusqu'à très 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 loin. Mais c'est ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est que premièrement vous avez il faut quand même faire les choses structurées. Mmh. Donc si vous mettez les pommes de terre dans la poêle avant de les éplucher, c'est pas très bien. Mmh. Ou ça peut être bien. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'avancement pas par pas, bien défini. Et puis peut-être le deuxième aspect, c'est que il y a une finalité. Donc, vous ne faites pas un repas juste comme ça. Bon, évidemment, il y a une nécessité, bah, il faut se nourrir, mais après, il y a aussi un plaisir dedans. Il y a un produit, il y a une finalité. Et je pense, dans ce sens-là, on peut tout à fait comparer les deux.
Donc, c'est une suite d'instructions qui a une finalité de produire quelque chose dans un contexte. Est-ce que tout programme informatique est un algorithme ?
Ben, normalement, c'est une suite d'algorithmes. Hein. C'est difficile de dire, bon, c'est ici un algorithme ou cinq algorithmes. Donc, effectivement, il y a, si vous voulez, il y a des choses assez standards. Par exemple, bon, quand vous commencez, quand vous faites des études en informatique, vous allez souvent commencer avec des algorithmes classiques de tri. Par exemple, comment on trie une liste. Et là, il y a vraiment des algorithmes qui ont un nom et qui sont bien identifiés. Mais normalement, un logiciel, bon, qui fait vraiment des choses assez basiques et tout de suite un ensemble d'algorithmes. Donc vous avez peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'interface, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du traitement. Voilà, donc on est très très vite dans un ensemble d'algorithmes et donc aussi dans un ensemble d'idées.
Ensemble d'idées, c'est-à-dire qu'un algorithme, c'est une idée.
C'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est quand même une façon, en tout cas, d'exprimer une idée. Comme si vous parlez à un cuisinier, et bon, franchement, je sais pas très bien, hein, j'ai pas vraiment, je pourrais pas vous garantir qu'un cuisinier vous le dit, mais je pense qu'un plat, c'est aussi une idée quand même, en quelque sorte. C'est une vision de qu'est-ce que c'est la bonne bouffe, c'est qu'est-ce que c'est le plaisir. Et dans ce sens-là, je pense qu'on peut aussi imaginer le langage algorithmique comme quelque chose qui nous permet d'exprimer des idées, mais de les exprimer d'une manière que à la fin il y a quelque chose qui fonctionne. Et ça, c'est peut-être un peu différent quand même.
Et pourquoi j'ai l'impression que le terme d'algorithme a été popularisé assez tard? Aujourd'hui, à peu près tout le monde n'est pas capable forcément de définir ce que c'est qu'un algorithme comme vous venez de le faire, mais tout le monde en gros connaît le terme et l'utilise même parfois, bon ou mauvais escient, peu importe à la limite. Est-ce que je me trompe si je considère que pour beaucoup, l'algorithme de Google, c'est-à-dire PageRank, a participé à la popularisation du terme même d'algorithme. Alors que, bon, voilà, vous venez de l'expliquer, il y a des algorithmes dans les programmes informatiques depuis que l'informatique existe, c'est-à-dire depuis bien avant Google. Et qu'est-ce qui fait que tout à coup, c'est apparu comme évident ce terme que tout le monde utilise ?
Moi, c'est vrai que j'aime toujours utiliser l'exemple de Google parce que c'est vraiment une expérience qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de gens partagent. Donc, c'est vraiment quelque chose que, on va sur google.fr ou google.com ou ce que vous voulez, vous tapez votre requête et c'est quand même assez magique. Hein. Vous avez une liste de résultats qui est trié et franchement les résultats souvent sont pas si mal que ça. Donc ça fait vraiment un sorte de moment de ok, là il y a vraiment quelque chose qui se passe et je pense comme il s'agit des pages, donc quelque chose qui finalement, évidemment, bon, c'est pas la même chose qu'un journal, c'est clair, c'est pas la même chose que la page d'un roman, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui que nous pouvons comprendre. Là, il s'agit de l'information, et derrière l'information, il y a des opinions, il y a des idées, il y a des propositions, il y a aussi évidemment un côté politique à ces pages. Il y a des pages qui pointent plutôt vers cette direction, à d'autres pages dans cette direction. Donc, quand on voit, je pense, la première fois cette liste triée automatiquement, on se rend compte que, là, il y a un algorithme qui n'est pas en train de...
D'accord.
Tout simplement, vous voyez...
C'est-à-dire que oui, Google, par le fait de l'expérience partagée et au fond une forme de simplicité dans cette expérience partagée, en tout cas du résultat, alors que c'est très compliqué par ailleurs, a fait apparaître l'algorithme dans son fonctionnement. Enfin, pas, on ne le connaît pas forcément, mais qui avait quelque chose, quoi.
D'un côté, je pense, c'est vraiment le fonctionnement. Bon, c'est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment là-dedans. Mais je pense qu'on comprend que c'est pas quelque chose qui est seulement de l'ordre. Si vous voulez, on pourrait penser que une machine à laver, c'est un algorithme en quelque sorte. Bon, elle fait une vous passez par une série de d'étapes. Encore une fois, je sais pas très bien quelles sont les étapes exactes, mais on peut imaginer que là aussi il y a un algorithme. Ouais. Mais finalement, ça nous paraît peut-être pas crucial. Mais je pense avec le web et le moteur de recherche, on comprend quand même que là il y a quelque chose qui est de l'ordre du culturel. C'est de l'ordre d'une tâche qu'on attache peut-être aux libraires ou aux journalistes, le tri de l'information. C'est quelque chose que je pense qui nous rappelle que là, il y a quelque chose qui se
alors,
passe.
Alors justement, Bernard Trieder, vous avez beaucoup travaillé sur PageRank, l'algorithme de base, hein, le premier algorithme qui a servi à la construction du moteur de recherche de Google en 98. Donc au départ, c'est un projet de recherche mené par deux jeunes universitaires brillants de Stanford, hein, c'est ça ? Ils sont à Stanford, tous les deux, Larry Page et Sergey Brin. Et puis, ça devient un moteur de recherche, une entreprise, tout ce qu'on sait, etc. Vous dites, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quoi ? Alors expliquez-nous ce qu'il y a dans PageRank, autre que voilà, un algorithme, des chiffres, des fonctions mathématiques. En quoi il y a des idées, il y a une idée, des représentations dans PageRank, justement, dans un trader
Bon, c'est évidemment une histoire, si on veut vraiment aller dans le détail, ça devient vite compliqué, mais je pense que si on prend un peu de recul, on peut quand même imaginer un moteur de recherche comme Google. En tout cas, disons au début, hein, aujourd'hui, on a les couches et les couches et les couches, et ça devient vraiment compliqué à imaginer. Mais au début, on peut vraiment imaginer que d'un côté, premièrement, c'est vraiment un moteur de recherche de texte plutôt classique, c'est-à-dire on va taper une requête et on va avoir comme retour les documents qui contiennent ces mots. Bon, voilà, c'est très sympa. Et après, il y a toute une série de techniques qu'on peut utiliser pour dire bon, quels sont les documents les plus pertinents par rapport à ces mots. Et là, on peut déjà utiliser des techniques statistiques pour voir. Bon. Mais ce que PageRank introduit, c'est, si vous voulez, un deuxième système qui va dire que OK, bon, il y a le contenu du document, tout ça est très sympa. Mais de l'autre côté, il y a aussi... on pourrait presque l'appeler un système social. Et ce système social est constitué aussi par les documents, mais aussi par le fait qu'il y a un linkage entre ces documents.
Des liens entre ces documents.
Des liens, voilà. Donc, ces liens, ils ont été placés pas de manière aléatoire. C'est-à-dire, quelqu'un a dit que, écoutez, moi j'ai un site et... Et j'écris quelque chose sur ce site et je pointe vers un autre site ou un autre document qui me semble pertinent. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les descriptions de PageRank, au début notamment, c'est cette idée que dans le lien, il y a un jugement.
D'accord.
Et à partir de là, on peut se poser la question, le territoire des hyperliens, c'est pas un territoire plat. C'est-à-dire, on pourrait peut-être calculer une moyenne. Donc on peut dire que oui, en moyenne, un site reçoit 5 liens. Mais on aura très peu dit sur la distribution qui se cache derrière. Parce que, je pense, ça, aujourd'hui, on le comprend bien. Il y a des sites qui, évidemment, reçoivent beaucoup de liens et d'autres reçoivent beaucoup moins. Mais ça a été déjà implémenté dans les moteurs de recherche antérieurs. Je pense que le changement de perspective de PageRank est effectivement de dire, écoutez, on va traiter les liens de manière un peu différente. On ne va pas seulement les compter comme des votes. Mais on va dire que, OK, s'il y a un lien qui vient d'un document ou d'un site qui lui-même a déjà un statut élevé, ce lien va compter plus, il va avoir plus plus de valeur.
Donc on pondère le poids des liens. D'accord.
Et ça devient une sorte de système récursif parce qu'effectivement, ça commence nulle part, mais vous voyez une sorte de topologie qui émerge qui a un peu des montagnes là-dedans, hein, si vous voulez. C'est une métaphore un peu géographique, mais c'est qu'il y a vraiment il va y avoir des zones et puis des sites qui vont vraiment pas seulement recevoir beaucoup de liens, mais recevoir aussi des liens de beaucoup d'autres sites qui reçoivent beaucoup de liens et ainsi de suite. Et ça, on peut quand même interpréter un petit peu comme comme un système social, effectivement.
Alors, quel système ? Qu'est-ce qu'il y a comme idée du système social derrière ça ? Est-ce qu'il y a une idée politique ? Est-ce qu'il y a une idée... Parce qu'on sait, bien que c'est un système qui est repris en partie de la manière dont les revues scientifiques elles-mêmes évaluaient la qualité ou l'importance de papier scientifique. Mais est-ce que ça suffit de dire que c'est, cet univers mental-là ou cette sociabilité-là, c'est celle des sciences, du monde des sciences ?
Je pense qu'il y a deux, au moins deux lignées d'origine. En fait, celle qui est plus... plus ancienne, c'est celle de la sociométrie. Donc, c'est ce que vous avez dans la sociologie, bon, à partir de, bon, d'abord les années 30, mais surtout 40 et 50, vous avez vraiment la tentative d'utiliser des méthodes mathématiques pour mesurer le pouvoir social. Mmh. Et si vous regardez un peu dans des papiers qui sont publiés dans ce moment-là, vous trouvez en fait des techniques assez similaires à PageRank. Et qui repose sur l'idée que pour savoir qui sont les leaders, là on est très vite dans un langage un peu machiavélique, c'est une notion assez, bon, même un petit peu cynique du pouvoir, c'est-à-dire si on veut trouver les vrais leaders, on ne peut pas juste regarder qui sont les gens les plus populaires. Il faut regarder qui sont les gens qui sont le mieux connectés à d'autres gens qui ont du pouvoir. Donc ça devient vraiment un petit peu une recherche pour même les leaders cachés. Ou le, voilà.
Et, donc il y a ce côté-là de la sociométrie, donc l'influence, calculer l'influence relative des gens. Ouais. Et puis il y a de l'autre côté... Ce dont je parlais, c'est-à-dire l'indexation des revues, etc.
Et ça, c'est aussi vraiment une histoire intéressante parce que l'indexation des revues scientifiques par citation commence déjà en 63. Et c'est déjà, même à cette époque-là, c'est vraiment un grand fichier. Donc, si je me souviens bien, la première volume du Science Citation Index sur lequel on va baser tous ces calculs, il prend déjà en compte 1,4 million de citations.
Ah ouais, avant l'informatique, enfin au tout début de l'informatique.
Ça commence,
quoi,
c'est intéressant parce qu'en fait les citations sont extraites de manière manuelle en Inde.
Déjà ?
Ah oui, outsourcing.
C'est intéressant ça.
Oui, tout à fait. Et, mais après, ils sont triés par ordinateur. Mais beaucoup de gens, effectivement, vont se pencher sur ce fichier qui est une sorte de big data, quand même, bon, au début des années 60. Et ils vont aussi se poser ces questions-là. Qu'est-ce que c'est un bon article scientifique ? Et bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, on va chercher différentes définitions. Mais comme on est quand même dans le domaine de la science, cette notion de la reconnaissance par le pair joue quand même un grand rôle. Mmh. Donc, beaucoup d'éléments, si vous regardez un peu l'évaluation des projets, si vous regardez l'évaluation des articles, tout ça est basé sur le jugement de pair. Et là on se dit, d'accord, écoutez, il y a toutes ces citations et on peut les utiliser. Mmh. Effectivement, pour regarder bon, quels sont les textes les plus importants, qui sont les chercheurs les plus productifs, et ainsi de suite. Et là, on va aussi suivre cette logique assez vite que j'ai mentionnée pour la sociométrie. Ouais. C'est qu'on ne va pas seulement compter, mais on va regarder, si vous êtes cité par un article qui est lui-même bien cité, ça vaut peut-être plus que... un article qui est plutôt obscur.
Alors, Bernard Trieder, si je dis que le génie à ce moment-là, à la fin des années 90, de Sergey Brin et de Larry Page, c'est de mêler donc sociométrie d'un côté, vieux système de calcul, et scientométrie de l'autre, et de mêler tout ça, donc fabriquer un algorithme qui mette ces deux manières de compter, ces deux métriques en relation les unes avec les autres. J'ai raison, c'est ça leur génie.
Oui, bon, c'est certainement c'est difficile, moi j'hésite un peu d'utiliser ce mot-là, mais c'est certainement quelque chose qui est très remarquable, et je pense que c'est effectivement d'un côté l'utilisation de ces idées, si on regarde bon, les articles qu'il publie et aussi les brevets qui sont déposés, on voit effectivement une recherche dans ces deux champs qui va aboutir quand même à quelque chose qui est plus que seulement une idée. Donc, Mais ça va quand même bien marcher. Hein.
Mais est-ce que c'est une vision du monde, Bernard Trider? C'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'il y a dans PageRank, dans ça, dans ce que vous dites là, est-ce qu'il y a une vision du monde ou en tout cas de la manière dont l'information doit être distribuée dans le monde? Et est-ce que cette vision du monde, elle est... Alors, excusez-moi, je vais juste aller un peu plus loin, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez juste glissé comme ça dans une phrase, que depuis PageRank, dont vous venez de nous raconter là les fondements, a été beaucoup travaillé. On sait qu'aujourd'hui, dans PageRank, il y a presque 200 autres algorithmes qui viennent pondérer ce système qu'on a défini là, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui prennent en compte la localisation, les recherches déjà effectuées, et qui font qu'en gros, deux personnes qui font des recherches depuis leur ordinateur chacune, eh ben, vont pas avoir les mêmes résultats ou le même ordre de résultats aujourd'hui, alors qu'ils l'auraient eu sans doute en 98. Bon. Mais ça veut dire donc qu'il y a des idées derrière ça. Il y a une représentation du monde ou de la manière dont doit circuler l'information, de ce que c'est une information importante. Et qu'est-ce que ça peut être? Comment vous la définiriez, Bernard Trider?
Ben voilà, c'est, je pense, effectivement, quand on regarde la préhistoire de la chose, on arrive quand même assez vite à une idée, à une notion d'autorité qui est d'un côté proche d'une définition du pouvoir social et de l'autre côté proche d'une définition de la qualité de l'information par les pairs, par les autres.
D'accord.
Donc on va aller vers quelque chose qui est de l'ordre... c'est difficile à vraiment mettre le doigt sur le point crucial. Mais je pense que c'est une notion de la pertinence qui n'est plus liée au contenu du document. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la validation sociale, la validation par les pairs.
Mais ça c'est très fort, l'idée que c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur du document qui est le plus important, mais d'où il vient, comment il circule, de l'importance des gens qui le font circuler, etc. C'est quand même c'est énorme comme manière de concevoir ce que c'est qu'une bonne information.
Non, tout à fait, c'est énorme. Bon, évidemment, le contenu va toujours jouer son rôle, hein. Mais effectivement, on va aller vers quelque chose qui quand même ouvre tout de suite la porte vers la question du pouvoir, quand même.
Ah oui, d'accord.
Parce que si vous dites c'est un système social dans lequel on hiérarchise, dans lequel les uns pointent vers les autres et s'attribuent mutuellement de la valeur, vous êtes tout de suite dans la question, qu'est-ce que ça représente? Et ça représente effectivement, je pense, une définition de la qualité de l'information qui est une définition beaucoup plus sociale et très en rapport avec le pouvoir.
Ah ouais. Bon, on va continuer à fouiller cette question-là, Bernard Trider, dans quelques instants. Mais tout de suite, Thibaut Henton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Mais c'est quoi ce film bizarre ?»
C'est quoi ce film bizarre? Die Gstettensaga, The Rise of Exenfriedl. Film en allemand et en anglais, tourné avec quelques milliers de dollars par un collectif d'artistes autrichiens, monochrome. Film de science-fiction, film de fantasy, d'horreur, film grotesque, post-apocalyptique sur les médias en contexte post-guerrier. Oui, c'est tout à fait lunaire. Et ça commence avec la 7e de Beethoven, synthétisée. Bande son électronique et des situations absurdes, je pense au récent Wrong Cops de Quentin Dupieux. Mais Die Gstettensaga, c'est encore de la sous-culture, pas encore de l'alternatif mainstream nuance. Me voilà donc en contexte post-guerrier dans les Alpes, dans une méga ville, Schwechat, où deux jeunes gens, un reporter débile et une nerd, sont engagés par un baron des vieux médias pour traquer le gourou des nouveaux médias, Exenfriedl, littéralement Fred le Lézard, inventeur génial et secret, figure à moitié mythique, saint patron des nerds. Le couple se lance sur ses traces, muni d'un appareil de transmission, dernier cri, la télévision. Sur leur route, ils croiseront des fermiers sauvages, des cannibales et apporteront l'électricité aux marchands de Reichal et Obendorf jusqu'à l'ambassade d'un pays d'Amérique centrale. Mais chut! Les références dans le genre techno-politique ne manquent pas. Pour certains, il s'agit tout simplement d'un petit bijou nerd underground entre Monty Python et les frères Denis. Moi, ça ne me fait pas trop rire, mais je n'ai pas d'humour. Ce qui est amusant, en tout cas, c'est le tableau de départ de ce monde post-apocalyptique. Conséquence d'une guerre, explique une voix off au début, d'une guerre entre Google et la Chine. Au commencement du 21e siècle, les Chinois ont attaqué Mountain View, le quartier général de Google, et la réplique fut nucléaire. La Russie et le Venezuela, qui avaient scellé un pacte avec la Chine, entrent en guerre. Cuba envahit les Bahamas, la Suède vandalise le Danemark et l'Iran montre à Israël que ça vaut toujours le coup d'investir dans des technologies allemandes. Bref, la civilisation humaine est en fort mauvaise posture. Pour le conflit Chine-États-Unis, c'est évidemment tout à fait crédible quand on sait les luttes à distance entre les deux pays, avec avantage à la Chine qui détient une bonne part de la dette américaine. Mais que Google finisse par avaler l'État fédéral jusqu'à se confondre avec lui quand même. Bon, en même temps, il n'y a pas si longtemps, certains au sein de la Silicon Valley faisaient part de leur volonté sécessionniste. Laissez-nous innover tranquille Big State, revendiquaient en substance quelques entrepreneurs libertariens. Eh bien, ça pourrait commencer par là. Attaquée de toutes parts, la firme de Mountain View commencerait à élever des murs autour d'elle avant de faire sécession. Grâce à ses robots, ses drones et ses thermostats surtout, elle prendrait peu à peu la main sur l'autorité centrale, incapable de faire face à la crise. De fait, Google est déjà cul et chemise avec Washington. Le contraire eût été surprenant, mais on dispose désormais de la preuve depuis quelques jours et ses courriels échangés entre l'ancien patron de la NSA et Eric Schmidt. Courriels qui viennent contredire la version officielle selon laquelle non, Google n'était pas au courant de la surveillance de ses serveurs. C'était bizarre, c'est vrai, mais pas autant que ce film post-guerre Google, Dick Stetten Saga, qui s'ouvre avec la citation suivante. Il y a bien dû y avoir un moment, au début, où nous aurions pu dire non. Sans qu'on sache bien comment, nous l'avons manqué.
Merci Thibaut, on vous retrouve en toute fin d'émission pour votre complément d'enquête et on écoute quelque chose de très bizarre. C'est une sorte de petit film japonais trouvé sur YouTube qui s'appelle Algorithm March, la marche de l'algorithme. Alors j'avoue ne pas très bien comprendre ou pas avoir très bien compris immédiatement le rapport à l'algorithme. Il s'agit d'une sorte de petite chorégraphie dont les exécutants répondent à des sortes d'instructions. C'est peut-être ça l'idée, des êtres humains dont les gestes seraient commandés par des algorithmes. Voilà, ils refont la même chose, mais à plusieurs, cette fois-ci, avec des ninjas derrière. Enfin, je vous laisse, on mettra la vidéo en lien sur le site de Place de la Toile. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, donc le magazine hebdomadaire des cultures numériques, où nous recevons ce soir Bernard Rieder pour parler politique des algorithmes. L'idée d'essayer de déplier cette idée qu'il y a dans les algorithmes des visions du monde. Alors, vous nous avez expliqué en détail ce qu'il en était pour PageRank, enfin le PageRank première version, celui de la toute fin des années 90, sans aller autant dans le détail et pour montrer la variété, parce que bon, des algorithmes, il y en a des centaines de milliers, de millions qui, partout, mais certains sont plus célèbres que d'autres, évidemment. Il y en a un autre qui est assez célèbre, qui est celui de Facebook, EdgeRank. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'une la vision du monde qui se dégage de cet algorithme? Et d'abord, il sert à quoi l'algorithme EdgeRank de Facebook? Et qu'est-ce qu'il dégage? Qu'est-ce qui, selon vous, donne comme vision du monde qui est celle de Facebook, du coup?
Ouais. Bon, d'abord, je suis très content que le nom Monochrome a été mentionné. C'est un groupe d'artistes que je connaissais déjà quand je faisais mes études à Vienne. Mais pour l'algorithme de Facebook, bon, premièrement, ce qui est très intéressant, c'est que pour créer un algorithme, vous avez besoin de signaux, vous avez besoin de matériel, si vous voulez. Oui. Et sur le web, le matériel, bon, c'est le texte. et c'est le lien. Sur Facebook, vous avez d'autres types de matériel. Vous avez des éléments desquels on pourrait aussi dire qu'ils expriment un jugement. Donc si moi je like un post et je le fais pas seulement parce que bon, j'aime la personne qui met le post, mais même ça en quelque sorte est quand même l'expression d'un jugement. Donc EdgeRank, si vous voulez, va utiliser un certain nombre de signaux pour moduler ce que vous voyez le matin quand vous allumez votre ordinateur. Ou, bon, aujourd'hui, c'est plutôt le téléphone portable. Mm-hmm. J'espère que vous ne le faites pas trop tôt hein, le matin. Mais c'est ce que vous allez voir. Donc, évidemment, vous avez plein d'amis. Vous êtes peut-être abonné au flux de plein de pages. Donc, en théorie, en tout cas, il y a une énorme avalanche d'informations qui pourraient arriver sur votre écran. Donc, de la même manière que Google se pose la question, bon, il y a peut-être des millions de documents qui ont ce mot que vous êtes en train de chercher dans le contenu. Facebook se pose la question, comment je pourrais rendre tout ça un petit peu moins rempli pour les utilisateurs. Donc,
c'est aussi du tri. C'est aussi du tri.
C'est aussi du tri. Ouais. C'est aussi du tri, effectivement. Et comme chez Google, vous pouvez aussi parcourir la liste hein, jusqu'au dernier lien. Et vous pouvez aussi, chez Facebook, éteindre le filtre et donc regarder le flux dans l'état nu. Mais l'idée, c'est maintenant que EdgeRank, je pense qu'il a deux composantes. Il y a d'un côté, il y a vraiment une idée sur qu'est-ce qui est intéressant pour une personne.
Ouais.
Et comme Facebook a quand même 1,3 milliard d'utilisateurs par mois, c'est une définition assez générale. Hein. Donc on va dire, premièrement, les gens avec lesquels vous entrez plus en contact, c'est peut-être plus intéressant pour vous. Donc, on va, les gens, vous échangez plus de messages, vous likez plus leurs posts, vous échangez plus de messages personnels. Leurs posts, on va les rendre plus visibles.
D'accord.
Mais on va aussi dire que, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les rapports sociaux. Il y a aussi une notion de popularité. Donc, si par exemple, un post a plus de chances, a été déjà liké par beaucoup d'autres gens, a reçu beaucoup de commentaires, il a aussi plus de chances d'apparaître dans votre flux. Puis il y a aussi le facteur temps. Donc un post qui est plus ancien, il va décliner en quelque sorte de probabilité d'arriver dans votre boîte.
Donc c'est intéressant, les trois critères, c'est la proximité, le nombre de personnes, le nombre d'interactions qu'on a avec les personnes, donc ça fait monter l'information. La deuxième, c'est la popularité de l'information, et la troisième, le temps. Donc c'est ça les trois paramètres. Et alors encore une fois, je repose la même question pour Google. Ça dit quoi de la manière dont les gens qui fabriquent cet algorithme ou qui ont fabriqué cet algorithme conçoivent les rapports sociaux?
Effectivement, si vous regardez ces trois éléments, vous avez aussi des choses qu'on connaît d'autres contextes. Hein. Par exemple, le facteur temps, c'est l'idée que tout ce qui est récent, c'est plus important. On est vraiment dans l'actuel. Mmh. Ouais. On va trouver la même logique dans la salle d'une rédaction qui va décider quels sont les sujets qu'on va mettre aujourd'hui dans notre journal. On va parler de ce qui s'est passé hier ou maintenant, au lieu de choses qui sont beaucoup plus anciennes. Plus anciennes. Pour la notion de popularité, je pense on la retrouve. C'est aussi, je pense, une logique pas très peu connue. Et la notion de proximité est vraiment quelque chose qui a aussi à voir, je pense, avec un certain problème que Facebook a de plus en plus parce qu'il vieillit. Mmh. C'est-à-dire, il y a 10 ans, vous allez sur Facebook, vous retrouvez un peu vos amis du moment.
Ouais.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui...
Plus il y a de gens, plus c'est compliqué. Ouais.
Plus il y a de gens, mais aussi, vous avez... vous êtes entré en...
Oui, il y a des liens éteints.
En contact,
quoi. Ouais,
voilà. Donc, vous avez accumulé du bagage, on va dire. Hein. Et ce n'est pas forcément... voilà, ce qui, les gens que vous avez rencontrés il y a 10 ans, vous n'avez peut-être pas trop envie de voir en permanence leur message. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a aussi une sorte de cercle social du moment.
Ouais,
donc
d'accord.
Les gens avec lesquels vous interagissez.
Mais est-ce que Bernard Rieder, on pourrait sociologiser les algorithmes? C'est en gros dire, tiens, là-dedans, on retrouve une forme de sociabilité qui est celle des États-Unis, ou alors des grandes universités américaines, ou alors une manière de concevoir le tri de l'information, l'importance de l'information qui est occidentale par rapport à orientale. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps ou la possibilité forcément de fouiller les algorithmes qui répondent aux mêmes problèmes sur, par exemple, les sites chinois. Mais peut-être on pourrait imaginer qu'ils obéissent à des logiques qui sont extrêmement différentes. Est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a une manière comme ça de sociologiser, d'hyper-contextualiser, jusqu'à même peut-être psychologiser les algorithmes en fonction, parce qu'ils sont écrits par des gens. Enfin, c'est une évidence qu'on n'a même pas dite jusque-là, mais enfin, c'est pas des trucs qui sont produits par des ordinateurs. Est-ce que c'est possible de faire ce travail-là, Bernard Rieder? Est-ce que ça a même du sens?
Je pense que ça peut être tout à fait intéressant. Donc, effectivement, ça serait une sorte d'anthropologie. On peut comparer les cultures par rapport aux outils qu'elles utilisent et on pourrait faire la même chose. C'est certainement pas facile. Et le problème aujourd'hui, c'est aussi que des très grands systèmes sur le web, comme Facebook par exemple, ils sont en quelque sorte, ils doivent répondre aux sensibilités d'une population mondiale. Donc, ça serait difficile d'imaginer, mais très intéressant, de regarder Sina Weibo par rapport à Twitter, quelles sont leurs notions de popularité. Et on peut tout à fait imaginer que, aussi, bon, le contexte politique très différent peut amener vers des régimes de visibilité différents. Mais je pense qu'il y a un problème fondamental avec cette approche-là, et c'est que, bon, on peut tout à fait dire que Facebook répond à une idée de sociabilité américaine. Je ne sais pas si ça nous amène très loin. Mais il y a une chose qui me semble assez sûre, c'est que Facebook, c'est une entreprise qui est vendue à la bourse et qui doit faire un chiffre d'affaires.
Donc du coup, il y a de la politique en tant qu'il y a de l'économie dans ces algorithmes, si j'ose dire.
Tout à fait.
Mais où l'économie? C'est quoi l'économie? Alors justement, si on dit qu'il y a l'économie dans les algorithmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie, elle est où? Elle est par exemple dans l'idée que l'algorithme serait efficace, parce que l'algorithme, ça tourne et que tourner, ça utilise de l'énergie, que l'énergie, c'est de l'argent. Ou est-ce que cette économie, elle vient d'un autre aspect de l'efficacité que l'efficacité, qui est par exemple une forme de rentabilité par les données qu'elle brasse ou celles qu'elle produit? Enfin, où c'est l'économie là-dedans, alors, Bernard Rieder?
Je pense qu'il y a différents aspects. Il y a aussi une sorte de balance que ces services doivent trouver. Parce que d'un côté, ils doivent quand même proposer une utilité aux gens. Bon, utilité est vraiment définie de manière très subjective, mais le service, pour qu'il continue d'être utilisé, doit plaire aux gens quand même, au moins un petit peu. Donc, on a d'un côté les utilisateurs. De l'autre côté, si on regarde d'où vient l'argent, c'est la publicité. Pour avoir une sorte de rentabilité économique vraiment dans le sens primaire, il faut vendre de la publicité. Donc, il faut, si vous voulez, d'un côté, continuer à avoir cette utilité, mais quand même mettre des moments de monétarisation là-dedans. Et tout le monde, aujourd'hui, sait que les gens n'aiment pas la pub.
Ouais. D'accord. Donc, comment on trouve des moyens?
Voilà. Donc, c'est pour ça pourquoi, en fait, tout ce travail algorithmique est tellement important. Parce que le travail algorithmique, il va vraiment permettre, d'un côté, de maximiser l'utilité en vous montrant les informations que, soi-disant, vous aimez. Mais il va aussi vous permettre de faire un maximum de revenus avec un minimum de pub.
D'accord.
Parce que c'est ça le but. L'idée, ce n'est pas de mettre de la pub partout. L'idée, c'est de dire que la pub, en réalité, si on sait un maximum sur les utilisateurs, on peut choisir des bannières ou des petits éléments qui sont tellement parfaits pour vous dans votre contexte et dans la situation actuelle, qu'en quelque sorte, c'est presque plus de la publicité.
Et Bernard Trieder, vous avez lu et j'ai lu et d'autres gens ont lu les papiers d'Antoinette Rouvroy et Thomas Berns autour de ce qu'ils appellent la nouvelle gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un pouvoir de l'algorithme, un pouvoir fort et un pouvoir d'ailleurs qui changerait les paradigmes de l'exercice du pouvoir par rapport au modèle foucaldien. Est-ce que vous iriez dans ce sens-là jusqu'à dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait que le PageRank était une manière de considérer qu'il y avait du pouvoir dans la manière dont arrivait l'information, ou que le pouvoir était important dans la manière dont arrivait l'information. Est-ce qu'il y a du pouvoir dans ces algorithmes? Est-ce que ces algorithmes ont beaucoup de pouvoir, Bernard Trieder?
Bon, c'est effectivement, si on cite la perspective foucauldienne, c'est toujours difficile de dire que quelqu'un a du pouvoir. Ouais. Mais effectivement, je pense, on est quand même dans une chasse à la visibilité et le jeu politique, même assez classique, consiste en partie aussi en ça, c'est-à-dire derrière toutes ces informations, derrière ces documents, derrière ces profils, il y a des propositions politiques, il y a des idées, il y a des mondes de voir. Et le fait que certaines perspectives reçoivent peut-être plus de visibilité que d'autres a certainement des effets, notamment si on prend en compte que Google aujourd'hui, c'est 2-3 milliards de personnes qui l'utilisent. Mm-hmm. Donc même si vous voulez, le pouvoir dans le très concret est difficile à tracer, si on imagine ça sur l'échelle de la planète, bah, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable.
Hein. Et alors est-ce que du coup, réciproque de cette question, vous considérez que le travail que vous faites, et vous n'êtes pas seul à le faire, parce qu'il y a quasiment des algorithm studies qui existent, hein, des studies des algorithmes, donc de la science humaine appliquée à la compréhension des algorithmes, est-ce que vous estimez que c'est un travail politiquement important de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, chacun dans des contextes, de les contextualiser, de les historiciser et de voir en quoi ils donnent chacun une vision du monde?
Oui, je pense tout à fait. Bon, évidemment, tous les chercheurs pensent que leur travail
est important.
Est important, hein. Et bon, voilà. Je pense quand même que toute cette algorithmisation fait quand même partie de quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la condition moderne, en quelque sorte. C'est-à-dire il y a de plus en plus de gens, littéralement. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui, il y a vraiment plus de gens sur la planète qu'il y a 100 ans. Il y a plus de choses, il y a plus d'informations. Et la question, c'est que comment on peut encore négocier là-dedans? Comment on peut guider ça? Et comment on peut intervenir? Comment les politiciens, ils peuvent encore savoir ce qui se passe dans un pays? Donc, on a d'un côté une multiplication juste de choses et de gens et des informations. Et on a aussi de plus en plus d'hétérogénéité. C'est-à-dire, dans un pays comme la France, vous avez des gens qui s'intéressent, qui font des choses très différentes. L'histoire que Foucault, en quelque sorte, raconte, c'est que dans le 19e siècle, on invente, en quelque sorte, les sciences sociales pour répondre, en quelque sorte, à l'émergence de la population comme quelque chose qui a sa propre logique, qui a sa propre dynamique et qu'on ne peut pas modéliser sur le modèle de l'individu et de la famille. Et c'est là où les méthodes quantitatives deviennent d'un côté importantes dans la description, mais de l'autre côté dans la gestion. Et si vous regardez aujourd'hui, le débat politique autour de la question, est-ce qu'il faut plus ou moins d'austérité, c'est la bataille des études. Donc chacun va vous dire, il faut plus d'austérité et j'ai les études de vous montrer. Et l'autre camp va aussi produire des études.
Donc, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut franchir une étape supplémentaire et qu'il faudrait algorithmiser les sciences sociales ou faire les sciences algorithmiques?
Non, je pense moins à ça. Je pense surtout que le quantitatif devient vraiment une façon dans laquelle nous sommes ensemble.
D'accord. Ah oui, c'est
ensemble. Sur vraiment différents niveaux. Et là, l'exemple des études scientifiques, si vous voulez, il se retrouve dans le marketing, il se retrouve vraiment dans le quotidien, où on va se dire, waouh, il y a tellement de choses, comment les comprendre, comment agir dans tout ça. Et c'est là où les algorithmes, comme les statistiques avant, jouent de plus en plus un rôle important. Parce qu'ils vont, en quelque sorte, nous aider à décider qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'écran de l'utilisateur? Quel document est-ce qu'il faut mettre en premier? Et ainsi de suite.
On va tout de suite retrouver Thibaut Henton pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas que ce soit très important.
Thibaut.
Oui, Bernard Trieder, à vous écouter, donc on est convaincu qu'on vit de plus en plus dans un monde qui est conçu par et façonné pour les algorithmes. Est-ce qu'il y a un moyen de... Vous avez des idées de, je sais pas, pour lutter contre ça? Est-ce que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter? Voilà.
Ça dépend, hein. Ça dépend du moment de la journée. Hein. Je pense qu'on a tous aujourd'hui parfois la tendance de penser que ça serait beaucoup mieux si on irait vivre dans les forêts, ça serait très sympa, et la nature et tout ça. Mais je pense que cette voie est fermée. Je pense qu'effectivement, que dans un monde où il y a 7 milliards de personnes, on a besoin de ces outils pour faire justement toutes ces choses qu'ils font maintenant. La grosse question pour moi est donc plutôt pas celle de algorithme oui ou non, mais plutôt quel type d'algorithme, comment, et pas seulement comment organiser les algorithmes précis, mais aussi le débat là-dessus. Comment on peut le rendre visible?
Et justement, pour rendre visible, il faudrait un minimum de transparence. Or, on sait que, par exemple, PageRank, dont on connaît la première version, il y a eu des dizaines et des dizaines depuis. Or, toutes celles-ci sont connues de Google uniquement. Est-ce qu'une des premières choses à faire serait peut-être que, par les pouvoirs publics, d'exiger une certaine transparence sur ces algorithmes qui concernent des milliards de personnes, justement?
Il y a certainement toute une série d'approches. Hein. Je pense la transparence. Le problème, c'est que même si Google nous ouvre sa boîte noire, c'est pas seulement l'algorithme qu'il faut connaître, mais aujourd'hui c'est un système probabiliste, hein, c'est-à-dire que il faudrait aussi connaître tout leur index qui fait un peu
l'ensemble des données qui sont travaillées par l'algorithme.
Oui, et là je pense c'est un rêve, hein, on pourrait pas comprendre ça de manière vraiment vraiment profonde. Mais je pense qu'il y a effectivement des questions qu'on peut se poser par rapport à des ouvertures qui sont peut-être pas forcément des ouvertures vers plus de transparence, mais des ouvertures vers plus de concurrence. Par exemple, là, ça serait aussi très difficile que je vais dans la rédaction du Monde, hein, et que je regarde dans la tête des gens et comment ils décident ce qu'ils mettent dans leur journal. Et on a aussi pas besoin au moment où on considère qu'on a un paysage médiatique dans lequel j'ai un peu de choix. Et bon, si vous avez regardé un peu le marché des moteurs de recherche récemment, effectivement, vous avez du choix, mais voilà, c'est...
Bah non, c'est nous, quoi.
Vous lisez des algorithmes?
Et je les écris aussi, oui.
Ah oui, vous écrivez des algorithmes? Pour quel genre de recette écrivez-vous?
Pas de bouffe, manifestement.
C'est que dans mon travail, moi, j'essaie de faire deux choses. D'un côté, j'essaie de comprendre ces choses-là, mais de l'autre côté, j'essaie aussi de les appliquer pour mieux comprendre ce qui se passe, par exemple, dans les réseaux sociaux. Donc, dans mon groupe de recherche, on crée des logiciels qui nous permettent de cartographier les réseaux sociaux, le web et d'autres choses.
En fait, des algorithmes pour comprendre d'autres algorithmes.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que en partie, c'est les mêmes. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut appliquer des algorithmes similaires pour, par exemple, regarder qui sont les gens les plus populaires sur Twitter, qu'après, Twitter utilise pour nous suggérer des comptes à suivre. C'est ce qui, je pense, rend aussi cette combinaison intéressante.
Il y a des algorithmes dont on n'a pas parlé du tout aujourd'hui, c'est ceux de la finance à haute fréquence. Ça fait partie aussi des choses que vous étudiez?
Pas vraiment. Hein. C'est effectivement un domaine très très intéressant. Mais je pense que beaucoup d'algorithmes qui sont dans le contexte qui travaillent dans le contexte du tri d'informations sont pas si loin de ce qui se passe dans la finance. On cherche des équilibres, on cherche à pondérer, à décider. Donc je pense que les deux sont en fait assez proches.
Merci beaucoup, merci Bernard Trader d'être passé par Place de la Toile à l'occasion d'un petit déplacement que vous faisiez à Paris. C'était un plaisir de vous retrouver après toutes ces années. Vos références sont sur la page de Place de la Toile. C'est une page où aussi on peut télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant trois. Alors pas de sujet encore défini pour la semaine prochaine, mais ce sera samedi à 18h10 sur France Culture et on essaiera de faire le mieux possible. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Cola Zibo. À la technique, c'était Bruno Gagnère-Fontani, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Dans quelques instants, ce sera Elisabeth Tchungi et son magazine de musique Sur Écoute. Bonne soirée, bonne semaine.